Bonjour, bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant 20 minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous êtes sur notre flux podcast. Depuis 2013, le site d'information parodique El Manchar fait rire les Algériens. Inspiré du Gorafi français, il a parfois été repris au premier degré par certains médias professionnels. Nazim Baya et son fondateur, vous l'entendrez tout à l'heure, nous raconter comment l'aventure a démarré sur Facebook. Il nous expliquera aussi pourquoi les autorités ne l'ont pas inquiété, mais aussi ce qu'il imagine pour le futur d'El Manchar alors que le système vacille en Algérie. N'y voyez pas forcément un lien, mais on va parler de propagande tout de suite. La propagande qui est sans doute aussi vieille que la politique. Avec le numérique, elle a pris une toute autre dimension, puisqu'elle est maintenant de plus en plus individualisée et on ne peut plus y échapper. C'est ce que nous raconte David Collomb, enseignant et chercheur à Sciences Po Paris.
On peut définir la propagande comme toute stratégie ou tactique de communication de masse qui vise à agir sur les comportements, les attitudes, les opinions des individus. Et il s'agit tantôt d'agir positivement pour encourager les individus à adopter telle ou telle attitude. Il peut s'agir également d'agir négativement pour dissuader des individus, au contraire, d'agir d'une certaine façon. Je m'appelle David Collomb et je suis enseignant et chercheur à Sciences Po.
Et donc vous expliquez bien que la propagande, en fait, dans l'imaginaire collectif, c'est une technique de régime dictatorial, mais qu'en fait, la propagande, on la trouve aussi beaucoup dans nos démocraties.
La propagande est née dans les démocraties, elle est née à Athènes, elle a été perfectionnée pendant la Révolution française, elle a surtout été institutionnalisée pendant la Première Guerre mondiale par les régimes démocratiques. Parce que en démocratie, il s'agit d'encadrer les masses sur le plan politique, social, mais aussi économique, d'où la nécessité d'organes de propagande.
Et donc qu'est-ce que le numérique a changé à la propagande ?
Il a tout changé. Il a tout changé et dans mon livre, je le résume en qualifiant la propagande contemporaine de propagande totale. Elle est totale parce qu'on ne peut plus y échapper, nous sommes constamment exposés aux écrans. Elle est totale parce qu'elle est remarquablement perfectionnée dès lors qu'elle repose sur le croisement du big data avec la connaissance très fine des mobiles des individus. Et enfin, à l'ère numérique, elle est de plus en plus automatisée. En quelque sorte, on peut parler d'une propagande cybernétique.
Et en quoi la propagande maintenant, avec les techniques liées à Internet, est de plus en plus ciblée à tel point qu'on ne la voit plus?
Il faut se représenter l'action des propagandistes comme celle de physiciens nucléaires. Au fond, ils sont en présence d'atomes, les individus, qu'ils cherchent à catégoriser grâce au big data en agrégats. Agrégats qui leur permettent de constituer des lois de comportement des individus, enfin des agrégats d'individus, et à partir de là, ils agissent sur l'environnement de ces individus, autrement dit sur le système qui régit leur vie, pour les conduire à adopter une attitude particulière. Nous sommes, à l'ère numérique, en capacité d'agir à la fois individuellement et de façon massive sur les actions aussi bien politiques qu'économiques ou sociales des individus.
Récemment, est-ce qu'il y a une campagne de propagande qui vous vient à l'esprit, qui a très bien marché, par exemple au niveau politique ?
Je crois que l'une des plus remarquables est celle qui a contribué en partie à l'élection de Donald Trump, grâce à Cambridge Analytica, qui a en particulier agi sur trois États qui étaient des États traditionnellement démocrates et qui ont basculé dans le camp républicain, avec une stratégie qui a consisté précisément à croiser les données du big data avec des données comportementales et psychologiques pour convaincre un certain nombre d'électeurs démocrates de ne pas aller voter pour Hillary Clinton, et avec un certain succès. Une autre grande démonstration a été faite par Dominic Cummings à la tête de la campagne du Leave lors du référendum du Brexit. Il faut s'imaginer que plus d'un milliard de publicités ciblées ont été acheminées via les réseaux sociaux à cette occasion.
Et justement, est-ce que les... Parce que la campagne de Donald Trump a aussi eu beaucoup de succès parce qu'il utilise beaucoup de fausses nouvelles. Est-ce que ça fait partie des techniques de propagande moderne ?
La fausse nouvelle n'est pas en soi nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur de sa diffusion et les modalités surtout qui favorisent la croyance dans les fausses nouvelles. Internet, de ce point de vue-là, décuple un certain nombre de nos défauts proprement humains, les biais cognitifs qui nous font toujours préférer les idées qui vont dans notre sens, qui nous font nous exposer sélectivement à une information qui est plutôt conforme, de sorte que Internet favorise les croyances les plus extrêmes. Ensuite, les réseaux sociaux encouragent un débat qui est un débat assez brutal, et cet ensauvagement d'Internet et le fait principalement de la viralité de ces fausses informations qui suscitent beaucoup d'émotions. Or, ce sont les informations les plus émotionnelles qui sont les plus virales. Et enfin, il faut bien dire que cette caractéristique des réseaux sociaux est très largement exploitée par des communicants et des propagandistes à des fins de manipulation de masse.
Justement, c'est ce que je disais, avant la propagande, on ne la voit même plus tellement elle est ciblée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette nouvelle forme de propagande qui arrivait avec le numérique ?
Alors, je crois qu'il y a d'une part une forme d'hygiène du numérique à adopter qui consiste à configurer ces applications de telle sorte qu'on livre le moins possible d'informations personnelles. Il y a ensuite un débat à avoir à l'échelle nationale et à l'échelle globale sur le devenir des médias qui sont en crise depuis de longues années. Et nous avons besoin aujourd'hui non seulement de sauver les médias, comme l'a écrit Julia Cavagé, mais aussi de sauver les journalistes, c'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions compter sur une information de qualité assurée par des professionnels et qui aient en outre les capacités de faire leur métier dans de bonnes conditions.
Mais est-ce que c'est la seule solution, sachant que il y a une crise de confiance dans les médias et que même par exemple en expliquant par A plus B qu'une nouvelle est fausse avec des faits, les gens n'y croient plus puisque en fait la fausse nouvelle elle est déjà dans leur sens.
Vous avez tout à fait raison. Démentir une fausse nouvelle est contre-productif puisque cela conduit à renforcer la croyance préexistante chez la personne qui a cette croyance en question. Ce que vous appelez la crise de confiance dans les médias n'est pas une crise de confiance dans tous les médias. Les médias publics se portent plutôt mieux que les médias privés. Parmi les médias publics, la radio s'en sort très bien, tout simplement parce que il n'y a pas à la radio les mêmes pressions que l'on rencontre ailleurs, en particulier sur les télévisions commerciales ou dans la presse possédée par des grands groupes ou des milliardaires, à savoir des pressions économiques, des pressions commerciales, des pressions publicitaires. Et, autrement dit, on peut imaginer d'encourager la renaissance ou le développement ou la sauvegarde de médias qui permettent précisément de diffuser une information de qualité au plus grand nombre.
Et avec cette information de qualité, on pourrait contrer certains effets néfastes des réseaux sociaux où les fausses nouvelles sont très présentes ?
J'en suis absolument convaincu. Le meilleur moyen de lutter contre la crise de confiance, la défiance envers les médias, c'est de favoriser le développement de médias dépendant à la fois des pouvoirs publics et des pouvoirs économiques.
Et au niveau des données, vous dites bien qu'il faut que les utilisateurs se protègent, mais est-ce qu'il y aurait des choses à mettre en place à un niveau plus global, puisque tout le monde n'est pas averti des risques ?
Il est beaucoup question aujourd'hui de réglementation, mais on voit à chaque réglementation adoptée les limites à cette réglementation, dans la mesure où le rythme de la technologie n'est pas celui du monde politique, et le monde politique est systématiquement en retard sur les évolutions technologiques. On ne peut pas non plus attendre des acteurs du numérique qu'ils fassent eux-mêmes le bon choix, dans la mesure où tout leur écosystème repose précisément sur la diffusion de ces fausses nouvelles. C'est une des choses les plus fabuleuses à propos des réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les fausses nouvelles sont si importantes pour eux ? D'abord parce que les diffuseurs de fausses nouvelles, les créateurs de fausses nouvelles sont les utilisateurs les plus engagés sur les plateformes, donc ceux qui donnent le plus d'eux-mêmes, le plus d'informations qui sont monétisables. Ensuite, les fausses nouvelles sont les plus virales, elles se diffusent le plus vite et au plus grand nombre et participent de ce point de vue de l'effet réseau, c'est-à-dire de l'utilité même du réseau social. Imaginez un réseau social où il n'y aurait pas de circulation d'informations, il perdrait vite de son intérêt. Et enfin, pour permettre au système dit d'intelligence artificielle de ces plateformes d'apprendre à distinguer une vraie d'une fausse nouvelle, il faut des fausses nouvelles. Il n'y a pas d'apprentissage de l'intelligence artificielle sans la diffusion de ces fausses nouvelles. Donc il est vain de croire que les plateformes pourraient se passer des fausses nouvelles. Il faut les y contraindre à renoncer à ces fausses nouvelles.
Est-ce qu'on pourrait aussi partir du principe que l'éducation pourrait être la clé en allant dans les écoles, enfin tout simplement développer l'esprit critique des jeunes sans forcément compter à chaque fois sur des médias qui font du fact-checking ?
Nous sommes tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'un professeur ne pourra démentir cette idée que nous participons, chacun à notre niveau, au développement de l'esprit critique et à la lutte contre tous les obscurantismes. Maintenant, ce n'est pas simplement l'affaire de l'éducation. Il faut bien considérer que se pose la question des médias, se pose aussi la question du financement de la vie politique, car derrière les fausses nouvelles, derrière les manipulations de masse, il y a aussi une industrie des relations publiques qui travaille pour le compte de grands groupes, et à des fins de contrôle de l'agenda politique. Donc c'est l'affaire de tous, en d'autres termes.
Propagande, la manipulation des masses dans le monde contemporain, c'est le titre du dernier livre de David Collomb, enseignant et chercheur à Sciences Po Paris. Vous venez de l'entendre au micro de Camille Sarrazin. Avant de poursuivre, quelques informations en bref, avec tout d'abord une journée de grève particulièrement suivie mardi à Radio France. Les syndicats du groupe public sont vent debout contre un plan annoncé par la direction qui vise à faire 60 millions d'euros d'économies d'ici à 2022 et prévoit entre 270 et 390 suppressions de postes. Un drôle de moment, alors que les audiences du groupe sont bonnes, que la radio amirale France Inter est devenue première radio de France et que France Culture est au plus haut historique. Facebook va lancer sa crypto-monnaie. La Libra, c'est son nom, permettra d'ici mi-2020 d'acheter des biens et des services en ligne ou d'envoyer de l'argent via la plateforme de Mark Zuckerberg, mais aussi via les applications Messenger et WhatsApp. Si l'on compte bien, ça fait des milliards d'utilisateurs et donc de clients potentiels. Après le scandale Cambridge Analytica et avec le RGPD, le règlement européen sur les données personnelles, Facebook assure évidemment que les informations financières ne seront pas partagées sans le consentement de l'utilisateur. Libre à vous d'y croire et d'y souscrire. La Cannes a démarré vendredi. Je vous invite à réécouter notre podcast de la semaine dernière. Nous recevions Christophe Jousset du service des sports de RFI qui nous a tout dit du dispositif de RFI et nous a raconté ses astuces pour présenter un match de foot. On prend maintenant la direction de la terrasse de l'Institut du Monde Arabe à Paris où j'ai interviewé Nazim Baya. Ce nom ne vous dit sans doute rien. C'est celui d'un homme de 35 ans, pharmacien de profession, qui a eu l'idée en 2013 de lancer un site internet en Algérie. Et pas n'importe lequel. Elmanchar.com est un site parodique que Nazim Baya commence par nous présenter.
Le site a été créé en 2013 et à l'époque il y avait le président Bouteflika, enfin l'ex-président Bouteflika, qui devait se présenter pour un quatrième mandat. Alors qu'il était complètement diminué suite à un AVC. Et donc il fallait répondre à cette urgence politique et j'ai choisi l'humour pour mettre en scène le ridicule de la situation.
Et comment est-ce que tout a commencé ? En fait, vous aviez une page Facebook, c'est bien ça, sur laquelle vous écriviez, vous commentiez l'actualité, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. En fait, c'était une page Facebook sur laquelle je publiais une vanne ou deux par jour, des vannes courtes en rapport avec l'actualité. Et la page a eu très vite du succès et c'est suite à ça que j'ai décidé de lancer le site internet.
Et vous avez tout de suite senti le besoin de vous faire accompagner par d'autres auteurs, d'autres personnes qui étaient un petit peu dans le même état d'esprit que vous ?
Exact. J'ai lancé un appel à contribution pour renforcer l'équipe et j'ai eu des retours et maintenant actuellement on est quatre à alimenter le Manchar. En fait l'équipe elle grossit, elle rétrécit parce que tous on travaille sur la base du bénévolat et actuellement on est quatre.
Ce site, quand on l'ouvre, il ressemble à n'importe quel site d'information. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes rubriques que sur un site classique d'actualité, de sport, rubrique santé, etc. C'était volontaire aussi ?
En fait, oui. L'idée, c'était de reprendre les codes de la presse officielle. Et donc, c'est tout à fait normal que vous retrouviez les mêmes rubriques, la même façon d'écrire. Et C'est pour créer une impression de réel qui désoriente le lecteur et qui dit peut-être que l'information que je suis en train de dire là est vraie. Et ça le pousse un peu à partager l'information.
Donc il y a une dimension aussi avec l'idée de partage, que les gens le fassent suivre sur leur page Facebook, etc.
Il y a ça, et il y a l'idée derrière de piéger les médias officiels, en fait, faut le dire.
Si on regarde quelques articles, là j'en ai parcouru en me plongeant un petit peu dans la rubrique, on avait par exemple exclusif, El Manchar apporte son soutien au président Bouteflika, un autre qui dit pour remonter dans le classement des pays heureux, l'Algérie va légaliser le cannabis, ou encore Enar, donc la chaîne officielle, va diffuser Game of Thrones, la série, le vendredi après-midi pour casser la révolution. Quand on voit tous ces contenus-là, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a une ligne éditoriale sur El Manchar ?
On fait pas de conférence de rédaction. La ligne éditoriale, elle a été fixée dès le départ. En fait, on est là pour taper sur les politiques, sur les puissants, mais pas sur les Algériens. Parce que je considère que El Manchar est un journal de gauche, en fait, et il est là pour défendre les laissés pour compte, les gens sans voix qui subissent la violence des politiques et de l'oligarchie.
Alors justement, le pouvoir, vous a-t-il déjà tapé dessus, mis à l'amende ? A-t-il cherché à vous dire d'arrêter, ou a-t-il cherché à mettre votre site hors ligne ?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, non.
Pourquoi ?
En fait, je ne sais pas, mais je pourrais donner des explications comme ça. C'est peut-être parce qu'on est confiné à Internet et parce qu'on s'exprime en français.
C'est ça justement, oui, ce site n'existe qu'en français et donc ne permet pas de toucher plus assez largement, en tout cas le peuple, donc, comme pour reprendre le terme que vous utilisiez tout à l'heure.
Eh bien, je pense que c'est à cause de ça que les autorités nous foutent la paix, parce qu'ils savent que l'Algérien lambda ne dit pas forcément le Manchar. En plus, le Manchar est que sur Internet. Et donc notre portée est limitée. Les autorités ont beaucoup plus peur des gens qui s'expriment en arabe, qui instrumentalisent la religion. C'est cela qui mobilise les foules, en fait, alors que nous on porte un discours tourné vers la tolérance et donc non, je ne pense pas que nous leur fassions peur.
La religion, justement, c'est un thème que vous n'abordez pas ou peu, ou alors vous allez parler des religieux plus que de la religion. Ça aussi, c'est un choix ?
Oui, c'est un choix complètement assumé. Je pense que dire que la religion, c'est de la merde, c'est complètement contre-productif. Mais cela ne nous empêche pas de nous attaquer aux religieux, aux fatwas qu'on trouve absurdes et qui ne correspondent pas à l'ère du temps, en fait.
Combien de visiteurs uniques avez-vous chaque mois sur El Manchar actuellement ? C'est autour de 300 000, un peu plus ?
À peu près, en moyenne, nous avons 300 000 visiteurs uniques par mois.
Et des gens qui viennent d'où ?
La majorité vient d'Algérie, mais nous avons aussi beaucoup de lecteurs qui viennent de France. Je suppose que ce sont des Algériens établis en France, essentiellement. On a une petite partie de notre lectorat qui vient du Maroc également.
Et quel est l'article qui a le plus intéressé vos lecteurs depuis la création d'El Manchar en 2013 ?
Je ne sais pas. En fait, les articles qui ont eu le plus de succès, c'est ce qu'on appelle des OAX. Un OAX, c'est un article, c'est un canular qui est pris pour une vraie information, et nous en avons produit disons une dizaine de ceux-là qui se sont répandus sur à peu près toute la presse internationale. Je pense à l'article du mec qui demande le divorce contre sa femme parce que pour faux et usage de faux à cause du maquillage. C'est l'un des OAX qui a... C'est, en fait, c'était un OAX planétaire.
comment les médias algériens, comment les journalistes algériens perçoivent-ils El Manchar? Vous avez des bons rapports avec eux ou pas?
J'ai de bons rapports avec une bonne partie d'eux. En fait, les acteurs sur Internet, j'entretiens d'excellents rapports avec eux. Mais les médias officiels, comme la télévision publique, la radio publique, j'ai comme l'impression d'être banni, carrément banni.
C'est-à-dire qu'ils ne vous ont jamais invité.
Voilà, c'est exactement ça. Et pourtant, on existe depuis 5 ans, on jouit d'une certaine notoriété, donc je ne comprends pas pourquoi on nous met à l'écart comme ça.
Depuis le 22 février, le début des manifestations en Algérie, est-ce qu'El Manchar a changé sa façon de travailler?
Changer sa façon de travailler, non. Changer de cible, lui. Parce qu'il y a eu un transfert de pouvoir depuis le 22 février. Bouteflika n'est plus, il a démissionné. Et le pouvoir réel, aujourd'hui, il est détenu par les militaires, en fait. Et automatiquement, on s'est tourné vers la figure du chef d'état-major qui est Ahmed Gaïd Salah. Et c'est lui qui est la cible de nos articles et de nos publications.
C'est quoi la suite pour El Manchar, les prochains développements?
En fait, la suite dépend de l'issue de la révolution du 22 février. Si la révolution aboutit et si on réussit à instaurer un état de droit et une vraie démocratie, je pense qu'El Manchar évoluera vers quelque chose comme le Canard Enchaîné ou Charlie Hebdo. Ça sera un journal à part entière.
D'information, donc?
Voilà, d'information. Mais si ça n'aboutit pas, on restera sur Internet et on poursuivra le combat.
Que pensez-vous du Gorafi, votre équivalent français?
Le Gorafi, c'est une référence en la matière. Je n'ai rien à dire là-dessus. Hein. Même si il y a The Onion, c'est comme ça qu'on dit.
C'est un site américain.
Voilà, c'est le premier site américain et c'est un peu la référence. Mais le Gorafi est un excellent site et je dois avouer que je me suis un peu inspiré d'eux parce qu'avant, quand je voulais créer un site satirique, j'ai directement pensé à Charlie Hebdo ou au Canard Enchaîné. Mais comme j'avais pas de caricaturiste, et j'ai vu ce que faisait le Gorafi, je me suis dit, voilà, c'est la meilleure solution pour moi. Je peux lancer un journal et me passer des caricaturistes.
Et le modèle économique dans tout ça, comment financez-vous El Manchar? Parce qu'on parlait, vous parliez de The Onion, le Gorafi, eux ont trouvé leur modèle économique. Ils arrivent à vivre de leur activité. El Manchar vous fait-il vivre?
El Manchar ne me fait pas vivre parce que je bosse en tant que pharmacien. Je bosse dans un établissement de santé publique en Algérie et El Manchar est un peu un hobby pour moi. Nous bossons tous, on est tous des bénévoles à El Manchar en fait, même si il y a de la pub, c'est du Google AdSense, mais cela ne nous permet pas de vivre de ça. Je ne sais pas, tout dépend de l'issue de la révolution en fait, parce que El Manchar n'est pas enregistré en tant que média. Nous travaillons un peu dans le noir et cela ne pousse pas les publicitaires à venir vers nous. Et...
Merci beaucoup Nazim Bayer.
De rien.
Et je rappelle que si vous voulez plus d'informations et si vous voulez découvrir El Manchar, rendez-vous sur el-manchar.com. C'est maintenant l'heure de Mondoblog Audio avec Ousmane Mamoudou qui depuis Niamey au Niger nous parle de démocratie et de propagande à l'ère numérique.
Les technologies numériques ont toujours été considérées comme un puissant outil d'expansion de la démocratie. Elles ont grandement facilité l'implication des citoyens dans les débats politiques, grâce notamment à des plateformes de blogging, de réseautage social et de messagerie instantanée. La parole citoyenne s'est ainsi libérée. L'implication massive des citoyens dans la vie politique a été une vraie avancée Et autant dire que les résultats ne se sont pas fait attendre. En Afrique, par exemple, un certain nombre de régimes répressifs ont été défaits. De la Tunisie en passant par l'Égypte ou le Burkina Faso, les réseaux sociaux ont largement contribué à rassembler les citoyens et à faire partir les dictateurs. La démocratie était là, à portée de clic. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Force est de constater que la démocratie et ses instruments n'ont pas su évoluer au fur et à mesure que les technologies de l'information et de la communication gagnaient du terrain. Aujourd'hui, les outils numériques ringardisent et dénaturent les campagnes électorales traditionnelles. Ah oui, parce que dans une démocratie, les élections sont dites libres et transparentes. Car on s'assure que les électeurs ont tous décidé de voter pour tel ou tel candidat sur une même base d'information. C'est pour cela que chaque candidat dispose d'un temps de parole précis dans les médias audiovisuels. Mais de nos jours, grâce à des techniques d'analyse du big data, il est possible de procéder à du micro-ciblage d'électeurs. Autrement dit, il devient possible d'envoyer à chaque citoyen un message personnalisé dans le but de faire basculer son vote en faveur d'un parti politique. Des messages qui ne seront même pas visibles par les régulateurs des plateformes de réseautage social. C'est ce qu'on appelle le dark post. Une technique que Donald Trump a utilisée pour convaincre les électeurs noirs de voter pour lui. La suite, on la connaît. Il a fini par remporter les élections américaines alors même qu'il avait 3 millions de voix de retard sur sa rivale. Si les politiques utilisent les technologies numériques pour mieux exploiter les failles psychologiques des uns et des autres et leur envoyer des messages de propagande en conséquence, on voit bien que la démocratie, telle que nous la concevons, perd en fiabilité et en crédibilité. Comment pourrions-nous responsabiliser un élu si tout le monde a reçu un message, une information, une promesse différente? Bientôt, le profilage des électeurs sera encore plus précis car les objets connectés prendront plus de place dans l'espace de vie de chacun. De la voiture à la télévision en passant par les assistants vocaux, de gigantesques quantités d'informations sont collectées que des entreprises n'hésiteront pas à exploiter. Finalement, il n'y aura qu'une seule issue possible dans cette confrontation entre la démocratie et les technologies numériques. Soit la démocratie l'emporte en imposant son autorité de contrôle sur les géants du numérique via des outils comme la réglementation générale sur la protection de données, le RGPD, soit les technologies gagnent et enterrent la démocratie comme l'ont été d'autres régimes politiques avant elle. L'humanité est à l'heure actuelle submergée d'informations de toutes sortes, propagande, fake news, publicité, ce qui fait que beaucoup de personnes se construisent leur propre version de la vérité. Il faut simplement espérer que cette version-là ne sera pas trop éloignée de la vérité, avec une majuscule.
Mondoblog.org.
C'était Ousmane Mamoudou, que vous pouvez lire sur son blog les mots du peuple qu'il rédige chaque jour depuis Niamey au Niger. Et sachez que Mondoblog lance un site dédié à la CAN. Une centaine de blogueurs africains vont raconter avec leurs mots la Coupe d'Afrique des Nations depuis tout le continent. Rendez-vous sur CAN2019.mondoblog.org pour avoir un autre regard sur cet événement majeur du sport africain. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Camille Sarrazin, Léo Caravagna et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse, au micro, Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse atelier@rfi.fr et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà chose faite, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.